Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Médecin rebelle, il demeure l'une des figures marquantes de la révolte des Patriotes. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, Jean-Olivier Chénier et la bataille de Saint-Eustache.
Pris dans l'église, Chénier se décida à sortir et s'élança, son fusil à la main, vers la porte du cimetière. Une balle le jeta par terre. Il se releva sur un genou, fit feu sur les Anglais et reçut une autre balle en pleine poitrine au moment où il essayait de recharger son fusil. Le brave Chénier tomba pour ne plus se relever.
Le journaliste Normand Desjardins évoquant la mort de Jean-Olivier Chénier, c'était à notre radio en 1978. Il est tombé sous les balles des Anglais lors de la bataille de Saint-Eustache. Figure mythique à une époque portée par le romantisme révolutionnaire, Jean-Olivier Chénier était un rebelle. Militant de la première heure, médecin combattant, il est mort les armes à la main dans une défaite cruelle qui allait mettre un terme au premier soulèvement des Patriotes.
En deux mots, Chénier est le héros authentique et le héros d'expression française. Chénier avait 31 ans. Il était médecin. Il aurait pu gagner sa vie honorablement à coups de bistouri. Il a pris le fusil, un fusil comme ça. Il est allé se battre contre des canons, puis il s'est fait tuer. Il avait 31 ans, il était marié depuis 6 ans, il était à la plus belle époque de sa vie et probablement au milieu de sa lune de miel. Et je termine par, je crois, un épitaphe qui a été écrit au sujet de Chénier. Il a péri dans la lutte, mais il triomphera dans l'histoire.
À nos officiers rapporteurs, à nos historiens rapporteurs, et c'est le résultat final. Allez-y.
Alors, je voudrais faire remarquer que nous avons reçu plus de 8000 appels, et ça continue de rentrer. Les derniers résultats sont les suivants, comme vous le voyez. Le docteur Chénier en première position, 2360!
Un extrait de l'émission Le sel de la semaine en 1968 à notre télé, Chénier, on l'entendait, avait alors été désigné héros du Canada. Alors pour nous en parler, mon invité, Gilles Laporte, il est historien, professeur au Cégep du Vieux-Montréal, spécialiste de l'histoire des Patriotes. Bonjour.
Hey, bonjour.
J'écoute l'extrait et je me dis, pas sûr qu'on aurait le même résultat aujourd'hui. Hein, si on demandait lequel des Patriotes était le plus marquant, j'ai l'impression que Papineau arriverait bien avant, Delorigny même. Pourquoi Chénier était à ce point important dans les années 60?
Je rappelle d'ailleurs qu'il n'était pas élu que grand patriote en 1960. Il était plus grand Québécois de tous les temps, devant d'Iberville et devant Samuel de Champlain. Évidemment, vous avez tout à fait raison. Les temps ont bien changé. Chénier demeurera pour toujours le renégat, le héros populaire, le guerrier rose. Dans le contexte des années 60, c'était parfait. Effectivement, auparavant, on se limerait davantage la figure de Papineau, hein, chef démocratique, plutôt pacifiste. Et de nos jours, les gens ont peut-être davantage en tête le nom de Thomas-Marie Chevalier de Lorimier. Mais Chénier, c'est celui qui est mort, les armes à la main, celui qui est resté parmi les siens et même qui va être souligné, on pourra parler, du nom d'une cellule du FLQ dans les années 1960.
Oui, tout à fait. Bon, on reviendra sur les origines de Chénier, mais parlons d'abord de Saint-Eustache, hein, le comté de Deux-Montagnes, aujourd'hui une banlieue de Montréal sur la rive nord. Pourquoi la région de Deux-Montagnes est un fief des Patriotes?
Oui, c'était bien différent auparavant. Il faut savoir que la région à l'ouest de Saint-Eustache est alors un vaste front pionnier. C'est très largement boisé. Il y habite donc de farouches cultivateurs, des autochtones. Il y a des défricheurs écossais aussi. Fait que c'est une région davantage peuplée par des gens indépendants d'esprit, un peu farouches, très radicaux en tout cas. Deuxième raison qui explique cette forte mobilisation, c'est indéniable, c'est l'extraordinaire talent qu'on y retrouve. Peu de régions à l'époque peuvent se vanter de compter parmi eux des patriotes comme Chénier, Jean-Joseph Giroir, comme Jean-Baptiste Dumouchel, comme Luc Hyacinthe Masson, peut-être des noms qui sont moins connus et qui, à l'époque, étaient des vedettes du mouvement patriote, qui vivaient tous, grosso modo, entre Saint-Benoît et Saint-Eustache. La dernière raison, c'est que la région de Deux-Montagnes, qui correspond aujourd'hui environ à Mirabel, est alors déchirée entre plusieurs intérêts. Il y a des enjeux locaux qui font qu'il y a en gros trois pôles dans la région. On distingue l'axe Saint-Benoît, Saint-Scolastique, Saint-Hermas, francophone et très patriote. De l'autre, un axe plus anglophone, plus loyaliste, autour de Lachute, Argenteuil, la vallée de Gore, et enfin un troisième pôle, celui de la ville de Saint-Eustache, mm-hmm. qui, ne nous trompons pas, est alors quand même un centre important au Québec et qui, bien sûr, était peuplé des seigneurs, les Globenski, les De Bellefeuille, les Dupont-Lambert. Toutes des gens, en somme, qui ne partagent pas les mêmes intérêts, qui font que le comté de Montagne est chaudement disputé.
Oui. Oh, Chénier, c'est qui? Qu'est-ce qu'on connaît de ses origines? Ou de son enfance? Ou ouais, de sa vie, quoi?
Oh, ça tient sur un carton d'allumettes. en fait, pourquoi? Ben, d'abord, parce qu'on a très peu de documents. On les connaît tous, ils sont conservés, mais ils sont peu nombreux. On sait qu'il est né le 9 décembre 1806 à la Chine. Donc, son père, Victor Chénier, se dit agriculteur. Son épouse, Cécile Morel. Son père est absent. C'est-à-dire, on sait qu'il n'est pas là à sa naissance ni à son baptême. Il serait apparemment, à ce moment-là, en voyageur dans l'Ouest. Alors, fils d'un père absent, qu'on ne connaît pas la date du décès. Chénier doit d'abord son destin à deux hommes exceptionnels qui l'ont pris sous son aile. Le premier, c'est René-Joseph Quimbert, un médecin de Montréal, qui l'initie à la médecine. Ça, c'est tout à fait remarquable. C'est là qu'on commence à suivre sa carrière d'apprenti médecin. Il faut savoir que médecin, à l'époque, c'est pas comme avocat ou notaire. On ne peut pas simplement l'apprendre par apprentissage. Il faut nécessairement aller dans une université. C'est ici, déjà à l'époque. Or, des universités comme ça, il n'y en avait pas au Bas-Canada, pas à McGill non plus. McGill, la faculté de médecine, c'est 1858. Ma mémoire est bonne. Alors, il faut absolument aller soit à Saratoga aux États-Unis, soit aller à Édimbourg en Écosse. Certains Canadiens-Français font le voyage, dont le docteur Quimbert, dont le docteur Labrie. Mais Chénier, lui, va faire son apprentissage à Montréal, si bien qu'il n'est pas... Il est comme un médecin de seconde classe, si on veut. C'est pour ça qu'il va accepter, une fois qu'il est reçu quand même, il passe son examen avec succès, il va être reçu, mais pour le pratiquer à Saint-Benoît, qui est à l'époque, excusez-moi, là, un trou perdu dans deux montagnes, un tout petit village entouré de montagnes et de forêts, où on est moins difficile, évidemment, au niveau de la formation du médecin. Mais il va y prendre souche, et il va devenir un médecin très apprécié, a bien émergé dans sa communauté.
Oui. Bon, médecin, mais aussi militant. Donc, comment il se découvre cette passion puis qu'est-ce qu'il revendique exactement? Qu'est-ce qu'il veut?
Alors, dès qu'il arrive effectivement dans le comté, 1827, il s'engage en politique avec enthousiasme. On le retrouve son nom à toutes les campagnes électorales. Les campagnes électorales, à l'époque, c'était quelque chose. Hein? Ça pouvait durer plusieurs jours. Je parle du vote lui-même. Et les militants, pour ne pas dire les fiers à bras, restaient tous autour du bureau de scrutin le temps du scrutin. Alors, par exemple, chez nous, on sait qu'il dort à ce moment-là chez le candidat Jean-Joseph Giroir. Et il dort un lit de camp parce que tous les matins, il fait le pied de grue devant le bureau de vote pour sélectionner les électeurs qui peuvent y entrer. Violence, affrontement, comme je vous dis, c'est un comté très disputé. En particulier lors de l'élection de 1834, peut-être l'une des élections les plus violentes de l'histoire du Québec. Plusieurs blessés, deux morts. Essentiellement parce qu'on se dispute le droit de pouvoir aller voter ou non. Finalement, ce sont les candidats patriotes Jean-Joseph Giroir et William Henry Scott qui l'emportent, ceux supportés par Chénier, si bien que Chénier se retrouve non pas comme député, ne le sera jamais, mais comme principal organisateur politique du comté.
Oui. Et comment il se retrouve, on dit médecin, oui, mais organisateur et plus tard chef militaire. Comment il se retrouve comme ça, chef militaire?
On retrouve son nom d'abord comme secrétaire d'assemblée, puis on le retrouve sur le comité des affaires militaires. Quelques assemblées qui se déroulent pour l'essentiel d'avril 1836 à 1837. Il est d'abord celui qui propose le boycottage des produits britanniques. Il le fait avant même que Papineau l'ait fait à l'Assemblée de Saint-Ours l'année plus suivante. Puis, il va être nommé au comité des affaires militaires. On le retrouve ensuite juge de paix nommé par et pour le peuple. Dans Deux-Montagnes, on est plus radical qu'ailleurs. Et si bien que le mouvement patriote va y franchir des pas qu'on ne franchira pas, par exemple, dans Richelieu ou dans la région de l'Acadie. On va retrouver, par exemple, des gens qui vont démettre les policiers, démettre les juges pour plutôt élire des représentants du peuple. En somme, on a littéralement mis sur pied des soviets patriotes dans la région de Deux-Montagnes et Chénier est le fer de lance de ce mouvement de démission et de repromotion. Son grand moment, c'est lorsqu'il s'empare de Saint-Eustache. Faut savoir, Saint-Eustache n'est pas vraiment un bastion patriote. Saint-Eustache, c'est un but de guerre pour les gens de Saint-Benoît, de Saint-Hermance et Saint-Scolastique. Alors, quand Chénier et les autres, dont Murie-Giraud et Dumouchel, s'emparent de Saint-Eustache, pour eux autres, c'est une conquête militaire. Oui. Et dès le départ, Chénier s'auto-proclame chef du camp de Saint-Eustache et dès lors, il entend à tout le moins résister, sinon prendre carrément Montréal.
Oui. Quand vous dites qu'il prend Saint-Eustache, qu'est-ce qu'ils veulent instaurer à Saint-Eustache?
Un camp armé. Oui, c'est comme ça qu'on intitule l'expression. À l'époque, les patriotes privilégiaient cette technique-là. On va retrouver aussi à Saint-Denis, à Saint-Charles. Les patriotes s'encarcanent dans une stratégie défensive. Ils érigent des barricades, installent un château fort et attendent pied ferme les troupes britanniques. C'est une stratégie défensive qui avait quand même fonctionné à Saint-Denis. Là, ici, évidemment, ils emprisonnent, ils s'emparent et surtout, ils réquisitionnent. On vide les fermes autour. Il y a au camp de Saint-Eustache, le nombre varie constamment, entre 200 et 1300 patriotes, plus ou moins, qui circulent, qui viennent des villages aux alentours et qui vivent sur les provisions qu'on a accumulées là. On cherche des armes, y compris Chénier qui va aller voir les Autochtones de Kanesatake au sud de Oka et qui va leur demander de céder leurs armes pour seconder les patriotes. Il va même tenter de les inviter à se joindre à lui pour soutenir le siège, soutenir la résistance à Saint-Eustache. Il y va de sa fameuse déclaration. Vous savez, Chénier, c'est l'homme des déclarations choc. L'une d'elles, c'est « Je vais rester et si vous me voyez tourner le dos à l'ennemi, je vous autorise à me tirer dessus. » Oui. Alors, voilà, prophétique,
oui,
évidemment.
Oui, bien sûr. C'est une grande gueule, Chénier. Hein? C'est un militant, quelqu'un qui est fort en gueule. C'est quelqu'un qui aime s'affirmer haut et fort. Là.
Alors, comme tous les personnages historiques, sa mémoire est controversée. On s'entend sur son physique. Il est petit, oui. Trapu, musclé, pas de cou, littéralement. Là, un costaud, mais relativement petit de taille, le regard décidé, bref, très ferme, et on le présente comme quelqu'un qui parle avec affirmation et avec assurance. En revanche, les détracteurs vont dire effectivement que c'est un hâbleur, quelqu'un qui cherche d'abord et avant tout la visibilité, qui veut régler des comptes personnels, tandis que ses suivants le présentent comme un chef naturel, un leader extraordinaire, si bien que même dans la littérature à propos de Chénier, on retrouve un peu ces deux facettes-là.
Et pourquoi les Britanniques? Qu'est-ce qui met le feu aux poudres à Saint-Eustache? Pourquoi les Britanniques envoient des troupes là-bas?
Oui, c'est vous dire combien l'enjeu est important. On y envoie la plus grande armée depuis, depuis la guerre d'indépendance des États-Unis. 1300 soldats britanniques, tout un régiment d'artillerie en marche à travers l'île de Montréal puis l'île Jésus pour prendre Saint-Eustache, qu'on croit être le principal bastion patriote. Donc, les troupes sont déployées soit face à la rivière des Mille-Îles, qui est alors gelée pour affronter le village de Front, qui est l'autre côté de la rivière, soit par la droite à partir de ce qui est aujourd'hui Bois-les-Filions. Ils marchent le long d'une route que les gens connaissent bien dans le coin qui s'appelle la Grande Côte.
Ah oui.
Et ils vont arriver devant Saint-Eustache à 11h30 le 14 décembre 1837.
Et là, très vite, les patriotes vont se retrouver complètement débordés. Bon, ils font pas le poids. On va écouter le récit qu'en faisait l'historien Gilles Boileau. C'était à notre radio en 1981. Il nous raconte justement les heures et les minutes qui ont précédé la bataille de Saint-Eustache le 14 décembre 1837.
C'était pas toute une armée qui s'en venait quand on a réalisé... En fait, c'était les volontaires de Saint-Eustache, commandés par le capitaine Maximilien de Lobenski. Ils étaient 83. Et pour protéger leurs biens, on en a déjà parlé, c'était joint l'armée britannique. Et eux avaient emprunté un chemin différent que le chemin de l'armée. Ils étaient venus par le Grand Bois de Saint-Martin, Sainte-Dorothée, et pour traverser sur la glace en arrière de l'église. Et au moment où Chénier, quelques hommes allaient voir, allaient effectuer une reconnaissance, voir quelle était la dimension là, de la troupe, eh bien, ils ont été surpris par un coup de canon chargé à la mitraille provenant de la Grande Côte. Et Chénier, ses hommes tournant la tête, virent alors une troupe en ordre, disciplinée, rangée, en randonnant. Là, c'était Colborne et ses 2000 hommes qui s'avançaient sur Saint-Eustache. Il était 11 heures le matin.
Et rapidement, ben oui, ils se retrouvent débordés. D'abord, Colborne, c'est pas un novice, là.
Absolument, c'est un vétéran de Waterloo, des guerres d'Espagne, un des officiers les plus décorés de l'armée britannique, et qui le fait que le général en chef prenne lui-même la tête des troupes ce jour-là, témoigne là, de l'importance qu'on apporte à l'opération. Alors donc, on installe effectivement des batteries sur la rue Saint-Eustache et on se met à bombarder les retranchements patriotes. Les patriotes se réfugient rapidement dans l'église, qui existe toujours, d'ailleurs, remarquable édifice. Quand même, les solides maçonneries permettent de les protéger. C'est finalement un officier britannique qui va passer par derrière, il va incendier ce qu'on appelle la sacristie. Vous savez, la sacristie en arrière, c'est souvent en bois. Là.
Oui, oui.
Et donc, ça permet non pas d'incendier l'église, mais de la remplir littéralement de fumée. Alors, ils sont environ 80 retranchés dans l'église à ce moment-là. Ils peuvent plus supporter la fumée. Ils doivent donc briser les fenêtres et ils essaient de sortir par les fenêtres où ils sont disons, abattu à bout portant. Là, les récits à propos de Cheney sont nombreux. Vous savez, vous connaissez son fameux aphorisme. Il n'y a pas assez d'armes. Tant pis, il y aura des morts, vous prendrez leur fusil. Ah, quand même, parole, encore une fois, pratiquement de l'Évangile. Donc, il va lui-même payer de sa vie. Il saute par la fenêtre. On a entendu un peu plus tôt un récit très, très méticuleux. En fait, on n'est pas certain de ce récit-là. Il y a au moins 6 versions qui rapportent la mort exacte de Cheney. Peu importe, il est criblé de balles. Et c'est sa fin, effectivement, de sa vie. Il a 31 ans et il avait épousé Louise Zéphirine Labrie, fille du médecin. Il avait eu 4 enfants. Mais l'histoire est loin de s'arrêter là.
Oui, bien, tout à fait. Parce que là, bon, il y a tout un mythe par la suite qui entoure sa mort et surtout ce qu'ont fait les Anglais de son cadavre. Hein. Longtemps, on a dit que les Britanniques avaient arraché son cœur et il aurait paradé au bout d'une baïonnette. On est dans le mythe.
Sommes-nous dans le mythe? On est certainement, en tout cas, dans les paroles qui sont répercutées de génération en génération. Regardez le cœur de votre chef, combien il est pourri. L'alibi, c'est une autopsie. Il y aurait eu autopsie. Bon, de là à pertinence de mener une autopsie sur un homme criblé de balles, c'est un autre débat. Mais il n'y a pas de doute, en tout cas, que le sort réservé au cadavre ou au corps de Chénier ressemble à celui des autres morts, les armes à la main. Parce que dans le mandement de Mgr Jean-Jacques Lartigue, évêque de Montréal, on avait interdit les services religieux et surtout être enterré en terre consacrée si on était mort les armes à la main. Alors, ce qui est toujours ambigu, mais dans le cas de Cheney, ce ne l'était pas ambigu. Alors, il a été jeté sommairement dans le cimetière des enfants morts sans baptême, qui est connu là, pour ceux qui, donc, qui n'ont pas droit à un billet gratuit pour le paradis. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'après cela, il y a de nombreuses démarches pour que son corps soit mieux restauré ou exhumé pour être placé en terre consacrée. Ça va notamment être le combat d'une vie du docteur David Marcil, un autre docteur de Saint-Eustache. Mm-hmm. Lui, sa mission va consister à placer Cheney à un endroit plus honorable. Et dès 1891, il fait son propre chef exhumer les restes de Cheney du cimetière des enfants non baptisés pour les placer au pied du monument des Patriotes qui se trouve encore aujourd'hui au cimetière Côte-des-Neiges à Montréal. Alors, objection en haut lieu, Mgr Fabre s'y oppose. Il n'y en est pas question, si bien que le docteur Marcil en est pour son compte. Il doit ramener les restes chez lui, les garder juste dans son salon et puis les garder dans une urne funéraire en attendant de lui réserver un autre sort. Finalement, l'urne va rester chez lui jusqu'en 1924. C'est alors son fils qui en hérite, le fils du docteur Marcil. Il les confie, tenez, au bijoutier montréalais Henry Burks. Qui vendait des bijoux, mais qui accessoirement avait des coffrets de sûreté où il pouvait conserver les restes de Chénier sur la rue Sainte-Catherine. Et ils vont rester là jusqu'en 1954. À ce moment-là, ça s'en va à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, où ils vont rester dans le bureau du directeur général, il me l'a confié lui-même, jusqu'à, tenez-vous bien, 1987.
C'est quand même
1987, c'est quand même assez récent.
Oui, ben oui.
Ça correspond aussi au 150e anniversaire de la rébellion des Patriotes, de la mort de Chénier. Et à ce moment-là, tenez-vous bien, l'Église, qui avait un peu oublié le tout, lève l'interdit qui touchait les restes de Chénier et autorise spontanément qu'il puisse être enterré en terre consacrée. Finalement, ça va donner lieu à une messe le 26 juillet 1987 où, à Saint-Eustache, on va enterrer solennellement les restes de Chénier dans le cimetière.
Oui, et ça, ben, on en a fait un reportage à l'époque. Donc, Stéphane Boisjoli, journaliste à notre télé, au Téléjournal, en juillet
1987. Si on a encore un peu de pouvoir, c'est dû à des gens qui se tiennent debout comme nos ancêtres, tous les patriotes.
Les descendants des Patriotes venus participer aux cérémonies du 150e anniversaire du soulèvement de Saint-Eustache portaient en eux toute la fougue de leurs ancêtres.
Le mot de la fin, là, je dirais qu'il reste bien indépendant du Québec.
Ils pouvaient enfin, sans honte, transmettre aux plus jeunes les hauts faits de leurs héros, dont les restes quittaient au même moment Montréal pour Saint-Eustache.
En tentant de s'échapper de l'église en flammes, il est atteint d'une balle, il se relève, décharge son fusil, mais une seconde balle l'atteint et le tue.
Claude-Henri Grignon, lui-même descendant d'un des patriotes morts devant l'église de Saint-Eustache, avait invité le gouvernement fédéral à participer à la fête.
On n'a pas beaucoup de représentants du gouvernement fédéral actuel aujourd'hui. On nous a répondu toutes sortes de choses. Je vous fais grâce de certaines attitudes.
Voilà, le fédéral absent en 1987, mais oui, bon, beaucoup de dignitaires pour souligner les 150 ans de Chénier. 87, on est dans la période post-référendaire, évidemment, mais qu'est-ce qu'il incarnait dans les années 60-70? Parce qu'on a parlé plutôt de la fameuse cellule Chénier, c'est la cellule qui a enlevé Pierre Laporte.
La mémoire de Chénier ne s'arrête pas là. Il y a aussi des projets de monuments à Saint-Eustache refusés par l'Église. Et la statue, elle est aujourd'hui érigée, mais sur la carrée Vigée à Montréal. Alors, on peut voir la statue qui, d'ailleurs, aucun fondeur, aucun sculpteur n'a accepté de la faire au Canada. Il a fallu la faire produire à Salem, en Ohio. C'est vous dire combien, même encore au 20e siècle, cette mémoire est controversée. Ça va se répercuter jusque dans les années 60. On célèbre les patriotes constitutionnels comme Papineau, comme Vigée, mais certainement pas un Chénier. Chénier réapparaît, vous l'avez fait entendre l'extrait du sel de la semaine, mais il n'y a pas de doute que sa mémoire demeure subversive. Il est donc repris par les felkistes, le nom de la cellule Jean-Olivier Chénier, celle dont faisaient partie d'ailleurs les frères Rose qui vont enlever et abattre le ministre du Travail, Pierre Laporte. Il y avait d'ailleurs une autre cellule, d'après les patriotes, qui s'appelait la cellule Vigée, qui était une cellule de cambriolage et qui rendait hommage à un autre guerriero patriote, Bonaventure Vigée de Boucherville. En attendant, Chénier est associé au héros populaire. C'est une fissure christologique aussi. Hein? N'oublions pas, il s'est réfugié dans une église, il avait prophétisé sa mort, il s'est sacrifié pour son peuple, son corps a été mutilé, et par ailleurs, comme on vient de le mentionner, il a aussi des apôtres ou des zélotes, notamment les FLQ. On se retrouve dans une sorte de figure christologique du martyr. Ce sens, sa place demeure assez unique, tant dans l'histoire des patriotes que celle du Québec.
Ben, une époque, justement, où aussi, ben, vous venez de le dire, il a incarné le sacrifice, hein, la lutte, les aspirations d'un peuple colonisé. On va écouter un sujet de l'historien Guy Frégaud. C'était à notre radio en juin 1968, alors qu'on venait justement de désigner Chénier héros national, mais précédé d'un coup de sonde dans la rue.
Je considère que ce que Chénier a fait pour le Canada français, en 1837, les événements mémorables, je pense qu'actuellement, nous vivons une époque qui, pour nous, nous rappelle ces événements déjà passés.
Le docteur Chénier, ça m'apparaîtrait comme une fête très populaire, où, disons, le docteur Chénier a été mis en exergue à cause du séparatisme et puis tout ça. Alors, c'est 1837.
On voudrait en faire un martyr, d'après vous.
Oui, c'est ça, tu sais, un espèce de héros, là, un mythe, un symbole de notre révolution actuelle, un patron.
On établit inconsciemment des rapports entre les aspirations de la société ou de la population ou d'une partie de la population actuellement et les aspirations de la population du Bas-Canada en 1837, lorsque l'on accorde une importance aussi considérable à Chénier, qui est d'ailleurs un héros très séduisant.
Voilà, ben oui, un héros très séduisant. Même à une époque, j'ai retrouvé ça dans certains documents, comparé à Che Guevara. Pourquoi?
Essentiellement, parce qu'il est quand même un mythe, des réalités. Il viendrait du peuple, ce qui n'est pas tout à fait exact. Il serait un pur produit du milieu de deux montagnes, ce qui n'est pas non plus exact. Ce qui illustre le caractère profondément héroïque de Chénier, c'est qu'on a pu prétendre que les autres chefs avaient démissionné, avaient renoncé. On a toujours dans l'ombre l'image de Papineau, la fameuse fuite de Papineau. Papineau aurait fui, les autres chefs ne seraient pas restés au milieu des leurs. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Hein. Chénier n'est pas le seul chef mort. Les armes à la main, là. Il y en a eu d'autres. Mais c'est néanmoins la mémoire qu'on charrie à propos de lui. C'est celui qui, à la fois, fait partie de l'élite, mais qui s'est immergé dans le peuple. Je dirais même que c'est plus qu'un héros guevaresque. C'est un héros de western, dans le sens qu'il est, il est celui un peu qui vient de l'extérieur, mais qui, au contact de la communauté, s'y immerge, fait sien les combats du peuple et se fait leur champion. Il se fait le champion du peuple en prenant lui-même les armes et en tentant de guider le peuple vers la terre.
Et lui-même médecin, hein, comme Che Guevara. Mon invité, en tout cas, c'est passionnant, Gilles Laporte, historien, professeur d'histoire au Cégep du Vieux-Montréal, spécialiste de l'histoire des patriotes. Merci beaucoup pour votre visite.
Grand plaisir.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier, là-dessus, excellente soirée. À demain. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.